Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Où,
Quand j'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois, j'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonsoir, chers auditeurs.
Bonsoir, chères auditrices.
Et bonne année. Ça commence bien. Bienvenue dans Cours d'honneur, la meilleure émission de Radio Sorbonne Université.
Tenue par la joyeuse bande de la première radio étudiante de la plus belle fac de France. 2024, une nouvelle année.
Avec vos présentateurs préférés plus qu'en bonne santé. Ce soir, c'est toi, ma chère Lodine.
Avec toi, mon cher Abel, qui allons présenter cette émission.
On entame la quatrième année de Cours d'honneur.
Une émission avec du rire.
Vous êtes célibataire, c'est pas à cause de votre rire.
J'espère pas.
Non.
Mais aussi des débats poignants.
Parce que, moi parce que, mais oui, bien sûr,
moi
votre parti.
Mais qui allez, celle-là? Qu'est-ce que j'ai
RPR,
fait, moi?
L'UDF, le PS et le PC.
Et de la poésie, bien sûr.
Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile.
Ensemble, nous répondrons à la question.
Être étudiant à la Sorbonne, c'est quoi?
Dis-moi, Lodine, c'est qui tous ces nouveaux gens-là?
Mais nouvelle année veut dire nouvelle recrue, Abel. Thomas a encore frappé.
Alors ce soir, nous accueillons Zina. Bonsoir Zina et bienvenue.
Bonsoir à tous. Alors ce soir, je vais avoir l'honneur d'interviewer Monsieur Escargueil, un professeur de génétique à la faculté de médecine de Sorbonne Université.
Super. mais c'est très intéressant. Nous accueillons aussi Jeanne également. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir, bonsoir Lodine, bonsoir Abel. Aujourd'hui, je vais vous parler de distribution alimentaire dans la chronique Débrouille.
Il y a aussi Lilou pour cette nouvelle année. Lilou, j'adore ta nouvelle frange. Nouvelle année, nouvelle frange, comment ça va?
Merci, salut Abel, salut Lodine. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Paris en janvier dans le pavé de culture.
Eh ben ça promet, janvier, nouvelle année, et pavé culture amélioré. Et Louane, toi, salut, t'as dormi cette nuit?
Oui, un peu, très bien. Alors moi, je perpétue la tradition de Marine, c'est-à-dire que je viens toujours en touriste. Voilà.
Comme d'habitude, mais c'est la tradition qui se perpétue. Noël, c'est aussi une histoire de tradition. Voilà. Mélie, qui est venue peut-être avec une galette des rois, peut-être. Oui, non, on sait que ton père est un très bon boulanger.
Pas ce soir, désolé.
C'est pas grave, y a pas de souci.
À la place, je vais vous parler d'un bâtiment fraîchement inauguré à la station biologique de Roscoff, et c'est sympa quand même.
Bah oui, la nourriture
ça se mange pas.
Et puis nouvelle année, mais même mascotte, Victoire est toujours là.
Salut Abel, salut Lodine. Aujourd'hui, je vous fais visiter l'amphi Richelieu dans la carte postale.
Eh bah, ben, amphi Richelieu, très bel amphi en plus, hâte d'écouter ça. Maëlys qui est là. Bonsoir Maëlys.
Bonsoir, aujourd'hui je vais vous parler des résolutions 2024.
J'espère que vous en avez tous pris autour de la table parce que moi j'en ai pas pris. Enfin, reconverti en agence de voyage bretonne, Thomas, le régisseur, est avec nous ce soir.
Bref, une sacrée équipe pour une sacrée émission.
Un mercredi sur deux en direct, un vendredi par mois.
Saison 3, épisode 9.
Cours d'honneur, nous revoilà. Et pour bien démarrer ce soir,
voici l'édito, la carte blanche de RSU.
Faire peur aux bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, c'est vraiment facile.
Carte blanche.
La nouvelle année a commencé et c'est enfin l'heure de parler des résolutions qu'on ne tiendra jamais. La nôtre avec Abel, c'était de réviser pour les partiels. Mais vous nous connaissez, on a préféré faire la fête et finir la tête dans les toits.
Chut, Lodine, on avait dit qu'on parlait pas de ça.
Désolé Abel.
Chers étudiants et étudiantes à la Sorbonne, je veux absolument savoir si les études sont dans vos révolutions ou si, comme moi, vous préférez rater des cours pour partir dans un autre pays un week-end ou se dire « je réviserai demain, c'est pas grave ». Alors pour vous, j'ai concocté les meilleures résolutions pour cette année afin de vous aider dans vos choix et envies. D'après 2 personnes sur 3, BFM annonce que le sport est la résolution de l'année. Je suis d'accord, mais qui arrive à la tenir plus d'un mois? À savoir qu'il y a une augmentation de 10% à chaque janvier en salle. Comment vous dire, pour ceux qui ne connaissent pas la salle, c'est 1 heure d'attente avant d'avoir une machine, les nouveaux qui prennent tous les poids et ceux qui se blessent car ils utilisent mal les machines. Bref, un envers, ici on n'est pas de coach sportif. Les Français, dont 25% des hommes, veulent diminuer l'alcool contre 20% chez les femmes, à savoir que 22% des Français boivent plus de 10 verres par semaine, ce qui correspond pour les médecins à une alcoolémie presque sévère. À ne pas confondre divers prix au Nouvel An avec les copains en espérant que vous ayez bien fait le SAM cette année. Anecdote, on appelle celui qui ne boit pas SAM car c'est l'acronyme de sans accident mortel. Il existe depuis 2005, il s'appelle également Bob en Belgique ou Raoul au Luxembourg. Le tabac également est une source des résolutions pour 9% entre les 35-60 ans et 9% pour les moins de 35 ans. Le tabac et l'alcool sont les premières choses à atteindre et les étudiants pour lutter contre le stress, la fatigue et le burn-out. Malgré toutes les préventions, c'est seulement le 1er novembre qu'on en entend vraiment parler et qu'on a enfin les solutions contre, comme les patchs ou les fausses cigarettes. De plus, cette hausse à 13 euros le paquet diminuera peut-être le nombre de fumeurs en France et dans le monde, c'est-à-dire 15 millions de Français. Sur ce, je vais aller faire mon vision board qui est à la mode en ce 10 janvier 2024. Bonne année, bonne santé et que celle-ci soit riche en bonnes notes et en réussite au partiel.
J'espère que j'aurai aussi des bonnes notes, j'espère que vous allez tous avoir des bonnes notes au partiel.
Ouais, et que vous allez arrêter l'alcool. Est-ce que c'est prévu ici autour de la table?
Des résolutions autour de l'alcool et la cigarette, j'ai l'impression que c'est vraiment ça la préoccupation des Français.
Pour la première fois de ma vie, j'ai pris des résolutions après ma soirée du Nouvel An qui a été un peu... voilà. C'est-à-dire arrêter la clope et arrêter l'alcool.
Ouais, c'est ce qu'on dit tous.
Voilà, ça a tenu 2 jours.
Ouais. 2 jours, c'est déjà bien.
2 jours, c'est déjà bien. Hein.
Le reste, autour de la table.
Non, pas de résolution, parce que je les tiens jamais. Okay. Juste être heureuse, c'est pas mal déjà.
Oh. Toujours le mot.
Toujours personne d'autre. Pas de
personne
résolution,
ne prend de résolution.
Thomas, de résolution. Dry January, tu l'avais fait l'année dernière.
Et, bravo.
Tu vas le tenir au pot après.
Et à Roscoff, ouais. Oh,
mais oui.
Ouais.
Ah, voilà, c'est une exception.
Oh.
Ah.
Cool. Mais je crois que tu me l'avais dit bourré en plus, ça.
Et effectivement, nous avons posé la question des résolutions à des gens parce que dans la vie,
il y a des hauts.
Il y a des bas.
Et maintenant, place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
C'est le début de l'année et il est encore temps de prendre de bonnes résolutions.
Mais au fond, à quoi bon les bonnes résolutions? Des promesses qui ne tiennent que 3 jours, fruit d'une pression sociale intense.
Alors les sorbonnards sont-ils des êtres de conviction ou au contraire, des êtres immoraux qui se complaisent dans leurs vices?
Avez-vous pris de bonnes résolutions? On vous a posé la question.
J'ai pris des bonnes résolutions, comme déjà premièrement, faire mes heures de conduite plus rapidement, parce que je passe le permis. Plus aller à la bis, parce que je prépare le CAPES. Faire mes birils, c'est une application... pour avoir à la fin de l'année une photo pour chaque jour. Lire les livres que j'ai dans ma bibliothèque et ne pas en acheter de nouveaux. Grand programme.
D'étudier encore plus. Et aussi d'être plus équilibré dans son rapport à l'étude. Être capable à la fin de mêler sa vie quotidienne et les études. Parce que les études, ça prend quand même un peu tout son temps. Et même un peu comme un spectre, tu vois, derrière l'oreille. Ça te suit même quand tu vas dans un bar. Faut pas que tu rentres tard, faut pas que tu boives trop, faut pas que tu... Enfin bref. Donc la résolution serait étudier plus, mais en même temps essayer de ménager un peu plus sa vie quotidienne.
J'ai pas trop de résolutions, mais prendre soin de soi, de son corps, qui permettra ensuite de prendre soin un peu de son esprit, quoi. Globalement, c'est un peu ça, de faire un peu plus de sport, de marcher, de profiter de Paris, et avoir l'esprit suffisamment aéré pour étudier par la suite. Voilà, globalement, c'est ça mes bonnes résolutions.
Bah, en tout cas, il y en a qui ont des vraies résolutions à la Sorbonne, au contraire du tour de cette année. Est-ce que, quand même, parce que, petite question, si le monde entier prenait des résolutions, est-ce que le monde n'irait pas mieux? Petite question là que je lance.
Bah, ça dépend quelle résolution. Hein, parce que
oui, résolution, mais surtout action, c'est surtout ça.
Waouh, c'est deep.
Votez Lodine. Hein.
Votez Lodine. Nouvelle première ministre.
Ah. Je serais mieux qu'à Tal. Hein.
Plus jeune en tout cas.
Bon, mais pour moi, la résolution pour cette année surtout, c'est de vous mettre de la bonne musique. Et donc, pour commencer 2024 avec un petit grain de folie et l'alignement des étoiles. Tout de suite, c'est Jane et son single The Fool.
Walking on the wire from Earth to Venus ground, playing with my balance, I'm not afraid to fall. A rose grows in outer space, I should have known better. A rain of fiery rocks, the sun up the dark.
Album de Jane dans vos oreilles. Et puisque, comme dit le proverbe, plus on est de fous,
plus on rit.
Pour relever le niveau de cette émission,
c'est un invité de haut rang que nous invitons. Accueillons.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Ce soir, dans Cours d'honneur, Zina, tu interviews le professeur Alexandre Escargueil.
Professeur de génétique à la faculté de médecine de Sorbonne Université, enfin un scientifique dans cette émission.
Oui, bonsoir Alexandre Escargueil, merci d'être avec nous ce soir sur Radio Sorbonne. Vous êtes professeur de génétique à la faculté de médecine de Sorbonne Université et vous êtes également impliqué dans le programme Sound. Alors, petit rappel pour nos auditeurs, la génétique est une branche des sciences qui étudie les particularités du génome humain. Les auditeurs de Cours d'honneur ont découvert avec nous cette initiative de l'université qui veut développer des réflexions autour de trois axes: l'approche globale de la santé, les ressources pour une planète durable et l'évolution des langues et des cultures. Comment vous, en tant que professeur de génétique, vous inscrivez-vous dans ces pistes de réflexion? Quel rôle peut jouer la génétique?
Alors, il n'y a pas que la génétique, on va dire. En gros, moi j'ai travaillé pendant très longtemps, alors Je vais juste préciser que je suis entre la faculté des sciences et la faculté de santé, puisque ça a changé de nom désormais. Et donc moi, je travaille en fait en cancérologie, et donc j'avais un apport très scientifique. Et puis au fil du temps, j'étais au contact de plus en plus, on va dire, de médecins, de soignants, d'infirmiers, d'aides-soignants et de patients, puisqu'aujourd'hui j'enseigne auprès de patients, et c'est à partir de ce moment-là où en fait j'ai pensé qu'il était utile, on va dire, d'aller au-delà de simplement travailler sur un plan fondamental pour comprendre, mais c'est également d'accompagner et de mieux expliquer en fait les pathologies.
En 2022, donc, Sorbonne Université a obtenu le label SAPS, ou Science avec et pour la société. À ce titre, l'établissement a dû répondre à certains critères. L'un d'entre eux fait référence à une participation citoyenne. Comment fait-on entrer la participation citoyenne dans une université ?
Bah, c'est déjà de l'écouter, ça c'est la première chose. Et aujourd'hui, c'est vrai que, et d'ailleurs dans le cadre de SAND, on va faire une journée spécifique sur les sciences participatives, qui est en fait d'introduire, de s'appuyer sur les citoyens pour exercer une recherche et impliquer le citoyen dans la recherche. C'est-à-dire qu'en fait, le message ne soit pas simplement un message de scientifique vers la société, mais également en fait un échange avec la société pour améliorer les domaines de recherche. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important aujourd'hui, puisqu'il y a un certain nombre parfois de conflits, on va dire, entre la connaissance et certaines croyances.
Vous avez également participé à la mise en place d'un master en humanité biomédicale. Ce master cherche-t-il à intégrer des considérations éthiques dans les sciences ou à apporter des connaissances scientifiques aux aspirants philosophes ?
Eh ben c'est, en effet, c'est plutôt la deuxième approche. Alors, en réalité, ça s'est fait dans la continuité de l'initiative des humanités biomédicales que j'ai créée avec Claire Crignon, donc, qui était maître de conférence en philosophie. Et donc dans cette continuité, on a voulu créer un master donc au sein de la faculté des lettres qui abordait justement les questions de sciences humaines et sociales autour de ce concept de santé historique, mais pas uniquement. Et l'idée, c'était justement d'apporter de la science, on va dire la science dure, entre guillemets, au niveau de la faculté des lettres, pour aussi qu'il y ait une meilleure compréhension et également voir comment un grand nombre de paramètres interagissent, on va dire, autour du concept, encore une fois, de santé et de pathologie.
Dans quelle mesure donc, cette formation s'inscrit-elle dans l'héritage historique de l'enseignement des études de santé ?
Alors aujourd'hui, donc c'est ça qui est vraiment un bon exemple, c'est que dans les études de santé, enfin de plus en plus aujourd'hui, on accueille dans ce master, mais également dans le programme doctoral en humanité biomédicale, des soignants. Donc il y a des infirmiers, il y a également des médecins qui nous rejoignent, parce qu'à un moment, en fait, à force de pratiquer, en fait, un certain nombre de questions surgissent dans leur pratique, et donc ils ont besoin d'avoir ce recul pour finalement améliorer leur pratique médicale.
Et par exemple, les étudiants de master justement en humanité biomédicale, pensez-vous qu'ils pourraient plus tard participer à des débats tels que la question de l'euthanasie ou de la mort assistée dans les soins palliatifs ?
Oui, donc on a des doctorants en l'occurrence qui travaillent aujourd'hui au sein du service de soins palliatifs de la Pitié-Salpêtrière, donc qui font des thèses dans ce domaine-là. À différents niveaux, mais il y a également, donc il y a 2 ans, l'initiative avait participé à un concours d'éloquence qui était porté donc par des étudiants, l'association Collectome in Science, et ce concours d'éloquence en fait avait abordé les questions de fin de vie pour la finale. Et donc c'était vraiment quelque chose de très intéressant pour voir comment finalement des jeunes, qui ne sont pas a priori exposés, en fait, se saisissent de cette question qui est évidemment une question sociétale majeure.
Tout à fait. Le XXe siècle a connu donc de nombreuses découvertes dans le domaine de la génétique. Parmi les plus connues, la structure de l'ADN en 1962 et 40 ans plus tard, la mort cellulaire programmée. Quel lien faites-vous entre cancer et génétique ?
Oula ! Alors ça, c'est une bonne question. Alors il y a plein de liens évidents. C'est une maladie génétique, hein, puisque c'est une dérégulation de la régulation des gènes. Donc c'est vraiment une question centrale. Mais après, c'est vrai que derrière la génétique, il y a des questions familiales, de prédisposition, et donc des personnes qui vont être plus exposées Et aujourd'hui, de plus en plus, la génétique se voit dans un environnement, puisqu'il y a de plus en plus de liens entre l'environnement et le fonctionnement donc, de nos corps, et en particulier de l'influence finalement, de cet environnement sur l'expression de nos gènes et donc sur nos caractères. Alors, indépendamment du cancer, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui montrent que les expositions, dire, lorsqu'on est jeune, va orienter, on va dire, notre devenir lorsqu'on est adulte.
À ce sujet, existe-t-il un consensus scientifique ?
Alors, à quel sujet ? Au niveau de...
Du lien, justement, entre cancer et génétique.
Ah bah ça, là-dessus, il y a à peu près un consensus, oui. Ça, on est à peu près d'accord.
Par exemple, donc, j'ai entendu énormément de théories du complot donc, par rapport aux thérapies du cancer. Pensez-vous que les citoyens devraient justement se renseigner plus en avant ?
Alors, de ce point de vue-là, aujourd'hui, alors, je pense en effet qu'il y a clairement des questions on va dire de prévention qui doivent être abordées. Et la prévention passe par la compréhension. Donc, ça tout dépend en fait comment on fait passer le message. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, au niveau des traitements, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses, un peu n'importe quoi sur Internet. Et c'est un défi justement auquel Sand ou d'autres projets peuvent essayer de contribuer. C'est de mieux comprendre finalement ces moyens de communication et de désinformation. Et ça, c'est un grand enjeu. Après, aujourd'hui, de plus en plus, il faut voir que des patients sont impliqués. Alors on appelle ça des patients experts, des patients partenaires, mais qui viennent en fait aussi participer finalement au discours pour les patients qui sont actuellement pris en charge. Donc des anciens patients ou des personnes atteintes de maladies chroniques qui aident finalement les patients à mieux comprendre à la fois leur pathologie, mais également leur traitement, les effets secondaires qui vont être associés et éventuellement la suite.
Une question plus personnelle cette fois-ci. Comment votre curiosité intellectuelle et votre approche scientifique influencent-elles votre manière d'aborder les problèmes complexes en dehors du domaine académique ?
Alors bah, ça, c'est on va dire la chance d'être justement dans le monde universitaire. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis un peu un internel étudiant. Hein. Alors bon, pas avec tous vos vices, hein, évidemment, hein, parce qu'il y a passé un âge, on évite tous ces vices. Mais en gros, ça c'est vraiment la chance qu'on a à l'université, c'est qu'on côtoie tout un ensemble de personnes hein, qui vous enseignent, auprès desquelles en fait on apprend beaucoup de choses. Voilà. Quand j'ai été recruté à l'université, jamais je pensais être un jour à la faculté des lettres dans un master en humanité biomédicale et encore moins être interviewé par des jeunes étudiants très brillants, comme ce soir. Voilà, donc je pense que c'est aussi une chance aujourd'hui qu'on peut avoir dans le monde académique. Il faut vraiment en profiter.
À quel point constatez-vous une méfiance du grand public vis-à-vis de la science ? Vaccin, Covid, on en a souvent entendu parler donc, ces dernières années.
Alors ça, malheureusement, c'est vrai que c'est un vrai débat. Bon, alors, on va pas revenir sur le Covid avec ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il y a aussi la parole du scientifique qui ne doit pas non plus être corrompue. Il faut quand même faire attention à ce que le scientifique explique, raconte, et surtout lorsqu'il, on va dire, dit représenter une communauté. Il faut toujours faire attention par rapport à ça. Alors ensuite, il y a d'autres choses. Donc là, d'ailleurs, dans le cadre de Sand, on va avoir aussi une série de séminaires sur, justement, un petit peu, donc, qui va porter sur la notion de comment peser, c'est-à-dire comment le scientifique et comment le discours scientifique, en fait, va pouvoir être mieux porté. Et aussi comment, finalement, déconstruire des faux discours. Voilà. Donc ça, c'est des professionnels en sciences de la communication hein, qui travaillent sur ces notions-là. Et encore une fois, ça va être utile aux scientifiques qui... Le scientifique n'est pas formé pour, on va dire, communiquer. Et donc parfois, son discours lui-même va être mal interprété, même si, évidemment, le fondement derrière est vrai.
Une dernière question, cette fois-ci plus générale et plus personnelle. Que représente la Sorbonne pour vous ?
Ah bah... Alors bon, en dehors que ce soit mon employeur, il faut quand même le dire. Non, je pense que justement la Sorbonne et avec la fusion donc, que j'ai vécue hein, et que j'ai essayé d'accompagner au mieux entre les différentes facultés a vraiment permis on va dire, de faire converger on va dire, autour d'une même question on va dire, des disciplines très diverses. Et ça, c'est vraiment une force qu'on a, nous, en tant qu'enseignants, mais également vous, en tant qu'étudiants. Il y a de plus en plus, on va dire, de ponts interfacultaires. Et ça, c'est vraiment, je pense, au moins lorsqu'on se questionne autour d'une problématique, bah, ça permet vraiment d'enrichir, finalement, la façon de l'aborder. Et surtout, par exemple, hein, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est par exemple que des étudiants en philosophie ou autres aillent dans des services de médecine, et inversement, que des médecins viennent exposer au sein de la Sorbonne sur des questions extrêmement d'actualité, telles que l'intelligence artificielle ou tout un ensemble de questionnements extrêmement importants aujourd'hui. Voilà, en particulier autour de la soutenabilité ou de la durabilité d'un certain nombre de choses. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, monsieur Escargueil. J'espère vous revoir bientôt sur Radio Sorbonne.
Eh bien, avec plaisir.
Et je suis désolée, j'aurais une dernière question à vous poser en lien avec ce que vous venez de nous dire. Est-ce que vous pensez que c'est à l'université de jouer un rôle dans la médiation du grand public vis-à-vis de la science? Et si oui, comment?
Alors oui, parce qu'en fait, on a des vecteurs qui sont importants. Il y a un, évidemment, les scientifiques, mais deux, il y a également les étudiants. Et le discours en fait, que l'on fait passer aux étudiants permet en fait, d'atteindre aussi des communautés que le scientifique ne va pas forcément atteindre. Voilà. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont extrêmement importantes. Et dans le cadre de SANDL, il y a vraiment aussi une implication, là je vous ai parlé de Connecto, mais d'autres associations d'étudiants. Parce que ça, ce sont des vecteurs, mais aussi pour faire remonter en fait, des questions qui touchent les jeunes, et pas forcément des personnes de mon âge. Quoi. Donc, voilà. Et ça, c'est vraiment important d'avoir cette interaction et cette confiance. Et ce travail commun. Quoi.
Je crois que c'est vrai. Merci. Parce que je crois que dans le cadre de SAND, nous avions interviewé d'ailleurs, notamment Connectome in Science, mais plein d'associations. Et je crois que celle qui s'était occupée d'interviewer les associations, vous avez aussi découvert, quand vous parliez d'interfac, on avait découvert via la fac de médecine ou via d'autres choses du savoir. Je ne sais pas sur celle qui s'était occupée d'interview, mais.
Oui, enfin, je sais qu'on est plusieurs autour de la table, mais étant par exemple étudiante en lettres, c'est vrai que du coup on avait pu avoir accès donc, à tout ce qui était sciences, même tout ce qui était écologie. Mmh. On a des trucs vers lesquels on n'aurait pas été qui permettent donc ce contact. Ouais.
Voilà, et ça c'est vraiment la chance qu'on a à la Sorbonne. C'est d'avoir ce. Et au-delà, puisque vous aviez aussi interrogé des personnes de l'UTC, du muséum, et encore une fois, c'est vraiment des perspectives en termes de collaboration et de connaissances, hein, et de partage qui sont absolument remarquables.
Bien, merci beaucoup Alexandre Escargueil pour cette interview très intéressante. Et d'ailleurs, on vous invite à aller écouter l'émission Sound justement qu'on avait fait, dans laquelle on avait interviewé notamment Connectome in Science et au cours de laquelle on avait beaucoup appris parce que, bah oui, même nous, étudiants en lettres, on s'intéresse à la santé et à la science. Et justement, ces ponts interfacultaires sont hyper importants. Donc merci.
C'est vrai qu'on ne réalise pas la chance qu'on a. Et en parlant émission spéciale, Odine, tu fais quoi dans 2 semaines?
Alors, j'avais un truc de prévu, mais je sais plus quoi. La piscine. Mais oui! Ce doux son de bignot me rappelle que dans 2 semaines, l'équipe de cours d'honneur sera en direct à Roscoff.
À partir du 25 janvier et pour 4 jours de folie bretonne, nous serons hébergés dans le campus océanographique de la Sorbonne. Et d'ailleurs, voici un avant-goût avec Mélie.
Et oui, Abel, aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de la station biologique de Roscoff.
On prend la direction de la Sorbonne en personne.
Mélie, tu nous proposes une avant-première de notre prochaine escapade à Roscoff.
En nous faisant découvrir un des bâtiments de la station biologique, portant depuis peu le nom d'une grande scientifique.
C'est qui ?
Et oui, aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de la station biologique de Roscoff, un des 3 campus marins de la faculté des sciences et ingénierie de Sorbonne Université. Le 27 septembre dernier, sur le site du Laber, un bâtiment multifonction, hébergement d'étudiants, salle de cours, laboratoire, bureau, a été inauguré après plusieurs années de rénovation. Mais alors jusqu'ici, quel rapport avec la Sorbonne en personne, me direz-vous ? Justement, j'y viens. En fait, cette inauguration est un véritable événement, une petite révolution à Roscoff en ce que ce bâtiment est le premier à porter le nom d'une femme scientifique, alors que les autres présents sur ce site portent les noms d'anciens directeurs, tous des hommes. Cette femme tombée dans l'oubli est Mary Goldsmith, victime de l'effet Matilda, phénomène qui consiste à minimiser voire à nier la contribution des femmes à la recherche scientifique au profit d'une postérité essentiellement masculine, elle a été invisibilisée par l'histoire.
Effet Matilda.
Oui, le New York Times cette semaine en donne un parfait exemple avec ce portrait consacré à Lise Meitner. Physicienne à l'origine de la découverte de la fission nucléaire, c'est pourtant son partenaire, Otto Hahn, qui sera récompensé du prestigieux prix suédois en 1944. Il la remerciera en parlant d'elle comme de son assistante.
Petit saut dans le temps, retour en 1871 en Russie, où est née Maria Isidorovna Goldsmith. Née de parents proches de Peter Lavrov, socialiste révolutionnaire russe exilé en France en 1870, elle arrive à Paris avec eux en 1884. Elle suit leurs traces comme militante anarchiste en adhérant par exemple dès 1892 au groupe des étudiants socialistes révolutionnaires internationalistes pour lequel elle rédige notamment des brochures. L'influence de l'effet Matilda se fait ressentir sur sa page Wikipédia, qui souligne et explique longuement son militantisme anarchiste, se contentant de mentionner sa profession en ces quelques mots, biologiste préparatrice au laboratoire de zoologie de la Sorbonne. La proposition de la cellule égalité femmes-hommes de la station biologique, au-delà de la volonté de sortir cette scientifique de l'oubli, n'est pas anodine. Marie Goldsmith rime, aussi, avec Sorbonne. Elle y a étudié la biologie et obtenu sa licence en 1894 à 23 ans, avant d'y décrocher sa maîtrise. Elle travaille de 1902 à 1919 avec Yves Delage, zoologiste et directeur de la station en 1901. Elle fait donc de nombreuses escapades à Roscoff. En parallèle, elle est rédactrice en chef de la revue scientifique L'année biologique, créée par Yves Delage en 1895. Elle a aussi participé avec lui à l'écriture des livres Les théories de l'évolution et La parthénogénèse naturelle et expérimentale. Ne me demandez pas ce qu'est la parthénogénèse, j'ai que 3 minutes et j'étais nulle en SVT. En tout cas, ces deux ouvrages ont été influents, notamment le premier, traduit dans plusieurs langues. Marie Goldsmith, après la mort d'Yves Delage en 1920, peine à trouver un métier dans le domaine scientifique. Elle sera pendant 5 ans animatrice de séminaire à la faculté de médecine, avant de sauter la vie en 1933, peu après la mort de sa mère.
C'est toujours pour lui qu'elle travaille, mais en même temps c'est pour la société tout entière, et elle-même. Les travaux d'électronique ou de laboratoire, ces travaux qui demandent des mains de couturière, elles les font mieux que les hommes, et elles le savent. On a besoin d'elles, et plus seulement à la maison.
Personnellement, je préfère recommander à des hommes.
Je préfère également commander à des hommes.
Les hommes sont pas rancuniers.
Comment est-ce que vous les réprimandez, si je puis dire ?
Dans certains cas, plutôt sèchement.
En fait, Marie Goldsmith a joué un rôle historique et scientifique, tant par son engagement politique que par ses travaux et publications scientifiques. Néanmoins, parce qu'elle était une femme, dans l'ombre d'Yves Delage, son nom n'a pas été retenu. La Sorbonne lui redonne sa lumière, fermant la porte à l'invisibilisation des travaux des femmes scientifiques.
Merci Mélie, on a hâte de prendre l'air marin pour découvrir tout ça.
Et boire. Je rigole. Je sais que ça fait beaucoup d'émotions d'apprendre que Lolo et moi, on va aller se la couler douce au bord de la mer, même si c'est en Bretagne. Alors, pour vous en remettre, pourquoi pas écouter le meilleur morceau du meilleur album de ce début de l'année, c'est Didier de La Fève sur Coup d'honneur.
De la fève du sud au nord. Faudrait que j'apprenne à assumer mes torts. Avant qu'elle vienne dans ce putain de décor. Tu me connais pas, juge pas mon passé. J'suis béni là, mon cou est glacé. C'est sans rancune que je lève mon verre. En hommage aux relations gâchées. J'ai toujours pas quitté la débauche. Tu peux me croiser dans le coin à gratter 2-3 garbiches. La Wallonne s'adapte que c'est officiel. On n'a pas attendu le premier cabis. Malgré nos efforts, on est toujours en perte. C'est pour ça que je suis fâché dans la cabine. J'ai vu sur un lac, je profite du silence. Je regarde le ciel et je repense à Capi. Du rap de hustler, du rap de vicieux. Malgré les tacles, on est resté ambitieux. Malheur, on est trop à voir le bon côté. Dans la guerre, ici-bas, y'a pas de love and peace. J'ai le ciel avec moi, my gang derrière moi. Alors, ça n'affiche pas le tease. J'suis toujours dans la bulle, toujours dans les ruelles. Rien n'a changé depuis le teaser. L'argent fait des allées, des venues. Tu m'as pas marqué, j't'ai pas retenu. Avant, j'étais calme, j'avais le sourire. Mais mon dieu, qu'est-ce que je suis devenu. Tu sais qu'ils auront pas une miette, même s'il y a une somme énorme. Cette chaîne de vie m'a trop blessé. Chérie, je veux pas folle, une love. DJ, augmente le niveau sonore. Qu'on entende la fève du sud au nord. Faudrait que j'apprenne à assumer mes torts. Avant, ce qu'il y a de bien dans ce putain de décor. Tu me connais pas, juge pas mon passé. J'suis béni là, mon cou est glacé. C'est sans rancune que je lève mon verre. En hommage aux relations gâchées.
Elle flash sur mon médaillon, elle retire son maillot, elle veut déjà me marier. J'ai fait ça parce qu'il y a que ça qui pouvait me sauver, toi tu faisais du rap pour te marrer. La quête de soi m'a rendu morose, du mal à donner un bouquet de roses. Si j'étais pas un fouteux, je ferais comme Wendy, je ferais comme D-Rose. L'univers récompense celui qui ose, on a pris de cailloux, on est parti les faire. Si t'es mon frère, ma réussite c'est ta réussite. Même sous stress, il faut rester lucide. Y'a quelque chose de pur dans ma musique. Ceux qui l'ont capté sont mes semblables. Du mal à rire même après semblable. Du mal à rire même après semblable. Hein? Tu sais qu'ils auront pas une miette, même s'il y a une somme énorme. Une chaîne de vie m'a trop blessé. Chérie, je veux pas folle. Augmente le niveau sonore, qu'on entende la fève du sud au nord. Faudrait que j'apprenne à assumer mes torts, avant ce qu'il y a de bien dans ce putain de décor. Tu me connais pas, juge pas mon passé. J'suis béni là, mon cou est glacé. C'est sans rancune que je lève mon rêve, en hommage aux relations d'achat. J'ai toujours pas quitté la débauche, tu peux me croiser dans le coin à gratter 2-3 garbiches. La Wallonne s'attaque que c'est officiel, on n'a pas attendu le premier gabis. Malgré nos efforts, on est toujours en perte, c'est pour ça que je suis fâché dans la cabine. J'ai vu sur un lac, je profite du silence, je regarde le ciel et je repense à Capi.
Et si, comme l'a fait, vous ne donnez pas l'exemple aux neveux, on vous accueille 2 fois par semaine dans cours d'honneur. Mais dis-moi, Lodine, tout à l'heure, là, j'étais au bon marché pour faire mes courses. Tu trouves pas qu'avec l'inflation, c'est dur d'ailleurs de les faire les courses ?
Ah là là, me parle pas de ça, Abel. Pour nos auditeurs dans la même situation, voici tous les bons plans de la chronique débrouille.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez, la vedette, à table !
En pleine période de partiel, l'alimentation, c'est vraiment pas la priorité des étudiants.
Mais aujourd'hui, Jeanne, tu vas nous parler des distributions alimentaires.
Eh oui, Lodine, eh oui, Abel, car les fêtes ont fait mal au porte-monnaie. Et puis, on va pas se mentir, la vie est chère à Paris et les courses, c'est parfois un sacrifice. Pour aider les étudiants dans le besoin, l'association étudiante Copains, créée après le Covid, organise des distributions alimentaires. Après une interruption pour les vacances de Noël, les opérations reprennent cette semaine. Sont proposées à ces distributions des fruits et légumes, aliments, boîtes, pâtes, conserves, biscuits, pains et produits hygiéniques. Bref, un panier varié pour tous. Pour en bénéficier, c'est très simple. Il suffit de se rendre sur le site internet de l'association et de s'inscrire pour réserver un panier et un créneau horaire. Une fois votre inscription confirmée, il ne vous reste plus qu'à vous rendre sur le lieu de la distribution au jour indiqué et surtout, surtout à ne pas oublier de prendre votre carte étudiante ou votre certificat de scolarité qui est obligatoire pour recevoir son panier. Mais ça, on a l'habitude à Sorbonne. Plusieurs distributions sont organisées chaque semaine et sont tenues exclusivement par des bénévoles, eux aussi étudiants. Elles se déroulent généralement en fin de soirée, les jours de semaine et l'après-midi, les week-ends hors campus. Et pour ceux qui auraient davantage besoin d'une doudoune en cette période de froid, des distributions alimentaires sont également organisées.
Merci Jeanne, merci pour toutes ces infos. Sujet plus que d'actualité, parce qu'aujourd'hui est sorti un sondage de la FAGE syndicat étudiant qui explique que depuis le Covid, le niveau de vie des étudiants a baissé de 20% et que c'est un étudiant sur trois qui saute un repas pour pouvoir se nourrir. Autour de la table, on va pas vous demander personnellement, mais il faut le faire sans honte, mais est-ce que vous aussi vous êtes dans une situation où vous avez
vous sentez des fois. Et tout, c'est dur.
Alors personnellement, j'ai la chance d'être logée, nourrie, blanchie chez mes parents.
Bourgeoise.
Vraiment. mais oui, effectivement. Enfin, quand on va dans les magasins, enfin, je sais que nous on fait plus attention. On sait quel magasin est plus cher. Et à Paris, on n'a pas forcément des trucs genre les trois mousquetaires ou des trucs comme ça. Non, mais c'est voilà. Et du coup, on fait attention à quel magasin on va. Et voilà.
Ouais. Pardon. Ah oui, mais plus que ça, j'ai pas nécessairement jamais eu vraiment de problème économique, mais je sais que, par exemple, maintenant, je vais acheter beaucoup moins de légumes. Il y a plein de produits que j'ai un peu rayé de ma liste à cause de l'inflation. Donc, tout ce qui va être produits frais, légumes, tout ça, j'en mange presque plus, quoi.
Ouais, bon, c'est un peu pareil. Moi, j'ai commencé mes études, du coup, en 2020 parce que je suis vieille. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment eu un moment où, tu sais, t'as vu le panier de courses vraiment augmenter niveau prix. Et, ça fait mal, quoi. Étant étudiante.
Mais on en avait parlé dans une émission l'an dernier. Il y avait Cilia, notre antenne strasbourgeoise, je balance, qui avait dit qu'elle volait, elle, les fruits et les légumes bio parce que c'était trop cher.
Alors, une fois, j'ai tenté de voler un avocat, mais je me suis fait choper. Ah, du coup,
les avocats, c'est si cher.
Du coup, ben, en fait, il a dit ouvrez votre sac et tout. Il fait mais vous l'avez pas payé, l'avocat? Je regarde, je fais non. Je l'ai oublié.
Et en plus, ils prennent les photos des gens suspects qui dont il faut se méfier.
Je me suis fait choper une fois, je pense que je suis fichée aussi chez Monop.
Mais j'avais une pote comme ça qui n'avait plus le droit de retourner dans certains magasins parce qu'elle avait volé. Elle avait interdiction, ouais, fichée.
Non, c'est vrai que c'est de plus en plus cher parce que moi j'ai remarqué quand j'ai emménagé, parce que du coup tu vis chez tes parents, tu regardes pas forcément les prix et tu demandes plein de trucs, à tu vis tout seul. Et moi je sais que je fais partie du cas de on loupe les repas et on n'a pas assez d'argent pour faire plus de 15 euros de course. Et c'est la cata, vraiment c'est la cata. Parce que du coup tu perds des repas, en plus de ça tu prends que des boîtes de conserve qui coûtent le moins cher, ou alors tu prends des pâtes, c'est tellement dégoûtant parce que du coup c'est pas du cru ou du... C'est quoi la marque rouge là?
Panzani.
Ouais, voilà, Panzani.
Déjà, c'est pas
ça va.
Top budget.
Je prends Eco Plus hein, pour tout.
Bah c'est oui, mais t'as raison, moi aussi.
Mais ça coûte.
Il y a que Thomas qui rigole, ça, lui, avec son argent. Alors, il nous jette son argent à la figure là.
Avec son gros saucisson bio là.
Non, mais... ah oui. Oui. Ta saucisse à tartiner là. Ah oui, c'est ça, avec la sous-boussaille.
Non, j'ai une merde, on permettrait pas de faire.
Mais en parlant nourriture.
Parle gros, c'est ça.
Bref. Ouais, les pâtes, ouais.
Les jouets, voilà, voilà, très bien. C'est à cause de toi que le pays va. On dit Macron, mais en fait, c'est à cause de toi que le pays va mal. En parlant nourriture, Lodine. C'est pas le livreur de sonnette de pizza qui vient de sonner là?
Ah non, Abel, la radio Sorbonne ne nourrit pas les pauvres étudiants affamés. Mais par contre, je crois qu'on a du courrier.
À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose. Il m'écrit.
Ah oui, les cartes postales.
De retour dans l'amphi Richelieu, qui d'ailleurs accueillera cours d'honneur pour une émission spéciale en public le 27 février, notez ça dans vos agendas. Aussi mythique que mystérieux, peu d'élèves y ont cours. C'est pourquoi Victoire nous y emmène dans sa carte postale guidée par Arthur et toutes ses anecdotes.
Bonjour à tous, je suis Arthur, je suis étudiant en préparation de l'agrégation d'histoire et je vais vous emmener dans l'amphi Richelieu. Là, je suis assis à la place de l'enseignant. C'est vrai que ça fait bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude. On est face à un grand demi-cercle, un hémicycle, des belles pièces de bois, de la belle menuiserie, des lambris, très lambrissés. Et on a donc une série de bancs qui sont minuscules. Moi, c'est la première chose. J'ai des grandes jambes et je pense que quand on, à part peut-être au premier rang, on peut pas vraiment étendre ses jambes. En fait, c'est un amphi qui est fait pour écouter, qui est pas adapté, on va dire, à l'enseignement contemporain. Donc après, il va y avoir une dizaine de bancs. Ensuite, ça monte, une petite montagne, une première série de gradins. Et puis après, le mur qui est un mur en hauteur, qui sépare la partie supérieure et inférieure de l'amphithéâtre, et avec deux niches, et même quatre en fait, parce que de chaque côté, on a deux niches qui sont face au professeur, et quatre, parce qu'il y en a deux qui sont vraiment à l'extrême, aux extrémités de l'amphithéâtre, presque sur le côté, une sorte de balcon ou de corbeille au théâtre, presque. Et de là-bas, bah, on peut pas voir le PowerPoint du prof quand on est là-bas, mais on peut s'éclipser si vraiment le cours est pas passionnant. Là, on vient de s'asseoir sur les premiers bancs, donc pas très loin de la place du professeur. Et de là, alors si on lève la tête, on voit une fresque de mythologie avec quelque chose très fin du 19e, début 20e, qui fait partie du décorum. Des nymphes, une forme d'ode à l'enseignement, peut-être la philosophie des allégories. Une fresque assez abîmée d'ailleurs. On voit peut-être besoin d'une petite une restauration. Et quand on tourne un peu la tête vers la droite, donc vraiment la fresque est très centrale, et quand on tourne la tête vers la droite, on se retrouve avec une Athènes. Alors, est-ce que c'est Platon? Ça a l'air, il ressemble à Platon quand même, la statue qui est agenouillée, qui regarde l'amphithéâtre. Et de l'autre côté, à gauche, on a Rome, avec Virgile, peut-être, j'imagine, en allégorie de la littérature latine. Et derrière, Paris, Richelieu, ça ressemble à un cardinal quand même. C'est les trois, c'est le triptyque de Richelieu qui donne son nom à l'amphithéâtre. Trois statues qui sont éclairées, et ça c'est vrai qu'elles le sont toujours avec un aspect un peu fantomatique. Après, on a une verrière qui pourrait penser que c'est la lumière naturelle, mais ce sont des néons, parce que l'amphi est laissé, enfin on est complètement enterré, mais c'est le cas d'à peu près tous les amphis de la Sorbonne, peut-être, sauf le Descartes, le Turgot est particulièrement, on dirait vraiment un parking en termes de luminosité. Et la peinture de l'amphithéâtre, et c'est vrai qu'on n'y fait pas attention, une sorte de vert un peu terni, mais enfin ouais, un petit vert clair, vert pâle, un peu malade, mais plutôt joli, ça se marie bien avec le bois. Et c'est un amphi qui craque. On sent que c'est du bois qui a vécu. En termes d'adaptation aux cours, c'est vrai que c'est un peu. C'est le problème majeur. Le problème, c'est de vivre dans une université qui est un peu musée en même temps, enfin qui se muséifie avec le temps, au fur et à mesure. Mais un peu mythique, oui. Mais moi, j'avoue que j'ai découvert cette année, et je pense qu'il est assez peu connu en fait des étudiants de la Sorbonne. C'est quelque chose qui est étonnant aussi dans la hiérarchie des élèves. On y accède, je vais dire en préparation à l'agrégation. Je crois qu'il n'y a pas d'autres cohortes qui l'utilisent, peut-être en partiel, mais c'est pas praticable parce qu'il n'y a pas de table. Et dernière chose, oui, le piano. Pourquoi un piano en plein milieu de l'amphithéâtre ? Il est sur l'estrade. Un beau piano noir à queue, sans doute, qui est bâché. Donc peut-être pas utilisé. Assez peu utilisé de manière générale. Voilà, la visite est terminée. Je vais vous raccompagner à la sortie. Hop là.
Mais quel amphi incroyable, Victoire. Et un jour, peut-être qu'il y aura un amphi Lodine et un amphi Abel, qui sait. Et alors vous le connaissiez, cet amphi Richelieu ?
Alors moi je le connais bien, j'allais dire très bien, mais peut-être pas, parce qu'on a cours du coup le mardi matin là-bas. Alors ouais, que j'ai jamais séché de ma vie. Il est très beau, mais désolé, mais les bancs ils font tellement mal au cul. Voilà. Et deuxièmement, les petites niches qui sont mentionnées dans la carte postale, je suis très cliente de ça, parce que quand j'arrivais très en retard ou que je partais très en avance, sans que le prof me voie, c'était très bien.
Et ça arrive très en retard et que tu pars très en avance.
C'était souvent ça d'ailleurs.
Parfois où elle venait.
Elle claquait la bise à l'Odine, c'est fini.
Oui, et encore.
Elle venait pour le déjeuner en fait.
En tout cas, moi je dis franchement, on mériterait un amphi à nos
noms. Un amphi à nos noms. Mieux que Richelieu en fait.
Ouais, franchement, c'est bon.
Et pour rester d'ailleurs dans le thème de l'histoire, tout de suite, c'est la chronique pavée.
C'est là. Shut up! Ce qui est inconnu ou mal connu excite l'imagination.
Il brûle parce qu'il y a des tas de journalistes qui peuvent venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon ? Quand ils disent qu'ils viennent, ils ne viennent pas ?
Cette fois, bonne nouvelle, ce n'est pas Thomas, le vieux proche grincheux, qui nous fait court, mais c'est Lilou qui a pris les commandes.
Ah là là, le mois de janvier, la fin des fêtes, il fait froid, il pleut, on a envie de rien. Mais qu'est-ce qu'on va faire, Abel ?
Ne t'inquiète pas, Loïc. Lilou va nous aider à commencer l'année du bon pied. Tu nous présentes les bons plans du mois de janvier pour nous aider à profiter de Paris, même sous la pluie.
Et oui, Lodine, et oui, Abel, pour la plupart d'entre nous, c'est déjà la rentrée. Fini les fêtes, les repas à rallonge, les mets délicieux, les galères du nouvel an, et place au partiel, à la reprise des cours. Alors je sais, le mois de janvier n'est jamais très réjouissant. C'est pourquoi cette semaine, je vous partage quelques bons plans pour faire durer un peu plus longtemps la magie de Noël. Et tout ça, bien sûr, sans se ruiner. Parce qu'on est étudiant quand même. Donc côté culture, alerte, bon plan ciné. Ce mois-ci, la Cinémathèque propose chaque semaine aux étudiants et aux moins de 26 ans une séance de ciné à 1 euro.
Oh, oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh, ça valait le détour. Oh là là! Regardez, c'est... Oh là 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 là! Je t'en volais, là, regardez ça! Oh, que c'est joli! C'est très joli! Oh!
C'est l'occasion de découvrir des grands classiques comme Garde à vue, Conan le Destructeur, qui passe d'ailleurs ce vendredi à 19h30 pour les intéressés, ou encore le film engagé et plaidoyer écologique Soleil Vert. Et si vous êtes plutôt spectacle vivant...
Non, 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 non
pensez à aller checker au dernier moment le petit guichet sur le flanc gauche de la Comédie-Française où sont mises en vente toute l'année avant chaque spectacle des places à 5 euros. C'est l'occasion d'aller voir ou revoir en ce moment des grands classiques du théâtre français à petit prix, comme Macbeth, que vous venez d'entendre, ou encore, et toujours aussi drôle, Le Bourgeois Chantilhomme ou Les Fourberies de Scapin, ou encore Cyrano de Bergerac.
À baiser, mais à tout prendre, qu'est-ce ? Un serment fait d'un peu plus près ? Une promesse plus précise, un aveu qui veut se confirmer.
Alors oui, peut-être que la voix n'est pas adaptée étant donné l'actualité. Mais bon, on passe à la suite. Un peu de sport, quoi de mieux qu'un date à la patinoire digne d'une comédie romantique de Noël ?
Vous êtes célibataire, que je sache. Et à votre âge, bâti comme vous l'êtes, vous trouvez ça normal ?
Alors pour cela, vous l'avez reconnu au bruit. Je vous conseille en plein centre de Paris la patinoire Sanjaini, située au cœur de l'Accor Arena dans le 12e, ou bien encore celle des Galeries Lafayette, qui a une vue magnifique sur l'Opéra Garnier et la Tour Eiffel. Bon, je sais, qui dit froid dit réconfort. Alors voici une petite adresse pour vous réchauffer et boire un bon chocolat chaud. C'est une petite musique pour vous accompagner. Donc je vous présente le Josy Café, situé à côté du Panthéon. C'est une adresse prisée des étudiants car il se trouve juste en face de la bibliothèque Sainte-Barbe, mais aussi parce que pour une boisson achetée le matin, vous avez une viennoiserie offerte, et l'après-midi c'est pareil mais avec un snack sucré, comme un cookie, un brownie ou un carrot cake. Enfin bref, c'est délicieux et abordable, tout ce qu'on aime. Et enfin, si vous voulez ajouter un peu de magie à vos révisions et vous sentir dans la peau d'Harry Potter, je vous conseille de tester quelques bibliothèques qui permettront de casser la routine de votre quotidien. À voir absolument le site Richelieu de la Bibliothèque Nationale de France, qui a rouvert ses portes en 2022 et qui est absolument magnifique. Mais aussi, on ne l'oublie pas, notre chère bibliothèque Sainte-Geneviève en face du Panthéon. Ou encore, la bibliothèque Fornay, située en plein marais, qui ressemble à un petit château et regorge de documents spécialisés dans les arts et la mode. Et voilà, c'est tout pour ce mois-ci, et...
Que la force soit avec toi, à jamais.
Merci beaucoup, Lilou. Là, je me sens intronisé de la force, mais parfait, je vais les réussir, c'est sûr.
Yoda, là.
Petit aussi, petit tips de patinoire, Paéron, dans le 19e. Ok, si, là, Simon Bolivar, elle est pas mal,
c'est vraiment
elle est
pas cher.
Du tout connue. Et donc, allez, c'est une municipale, elle est pas du tout connue. Et donc, allez-y, parce que celle de la Corvena, il y a genre beaucoup la queue.
Ouais, c'est vrai, je crois cool. Que c'est très demandé.
On sent que t'as fait beaucoup de dates pour...
Non, en vrai, je suis trop nul à la patinoire. Vraiment. Vous savez pourquoi Thomas est hyper fort à la patinoire ? Parce que Thomas, il fait du roller. Ah, tu t'y connais vraiment.
J'avais 7 ans.
Non. Je t'ai jamais croisé. Hein.
Le mec vit au Canada. Ah. T'en fais de la patinoire du coup ? Ça, on sait, Thomas, ça, on sait. Sinon, comme on se fait plaisir, c'est la fin de l'émission, des gens ont des petits tips, parce que tout le monde a toujours des petits bons plans étudiants.
Ouais, petit bon plan théâtre. Donc là, on a parlé de la Comédie Française, un peu plus cher, mais avec un autre avantage, le Ranelagh. Le Ranelagh qui présente pour 12 euros, donc c'est plus cher.
Dans le 16e
Dans le 16e, ouais. Mais on peut choisir sa place, ce qui fait que, en fait, moi j'étais genre carré or ou orchestre, un truc comme ça. Je connais pas très bien les places, mais pour 12 euros. Donc
trop
très
bien.
Très fun, alors que dans beaucoup d'endroits qui proposent des places comme
ouais,
la Comédie Française ou quoi,
placé,
ou l'Opéra, des places étudiantes, en fin de compte on peut pas choisir la place et on a une chance sur deux de pas voir la scène, donc c'est très sympa, hein, le décor est cool. Mais
c'est pareil, il y a la Philharmonie de Paris, je sais que les places pour les jeunes sont vraiment pas chères, je sais plus, c'est 10 ou 20 euros, et premier rang, et parce qu'ils veulent encourager pour que les jeunes puissent...
Je pense que c'est moins de 20 euros, parce que 20 euros c'est cher quand même.
Bah, je crois que c'est 10 euros, il me semble que c'est 10 euros à vérifier.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de bons plans nos télés, parce qu'il y a beaucoup de bonnes adresses.
La
bibliothèque Richelieu qui a rouverte est excellente. Parce que c'est pas la Bibliothèque Nationale du 13e, c'est genre l'autre.
Elle est plus.
Perso, j'ai un bon plan pour les vacances que personne ne connaît. Sur le site 1825 Vacances, vous avez des hôtels partout en Europe, carrément moins chers. Par exemple, pour Rome, j'ai payé 50 euros pour 5 nuits.
Ok.
Voilà.
Dingue. Ça, c'est fou par contre.
Ah, c'est fou de ouf parce que par exemple, la Finlande. Ça coûte super cher. Beaucoup. Actuellement,
mais,
d'ailleurs.
Mais Alice, t'es en France parfois ou pas?
Non, elle va à Prague demain.
Et
tu vas à Prague demain?
Ouais, je vais à Prague demain.
Elle n'est jamais en France.
on rigole, c'est mon premier voyage, d'accord? Non, mon deuxième.
Bah, t'es
à Rome.
T'es allé en Finlande.
Mais c'est bien, faut rentrer.
Mais.
Oh, l'empreinte carbone.
Elle y va en bateau.
En courant.
À pied.
Quand j'aurai un énorme salaire, ou Thomas peut-être qui peut nous inviter aussi. Ça peut être...
Parce qu'il a un énorme salaire.
Oui, Thomas est très riche.
18-25 vacances, allez voir de ouf, il y en a partout. Espagne, partout, tout ça. Et Ryanair, les bons plans en décembre, en janvier. Actuellement, c'est les bons plans de malade, 30 euros à l'air.
Mais Ryanair, les avions, ils décollent pas.
Mais, ouais, mais d'ailleurs...
Pas du tout, après que je vais avec Ryanair, franchement.
Bah on verra si tu reviens. Hein.
Il y a les dizaines de l'avion ou pas.
Mais bon plan SNCF aussi, mais c'est que jusqu'à ce
100 000
soir.
100 000 billets ouais. Bigo, ouais. 19 euros. Ah,
pour aller faire un petit week-end dans le sud.
Pas mal.
Si ça vous tente.
Voilà. Et d'ailleurs, nous voyageons écologique parce que là, dans deux semaines, parce que dans votre rendez-vous cours d'honneur de dans deux semaines, parce que je sais que vous êtes très attentifs, chers auditeurs, pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il y en a nous irons en train, parce que malheureusement...
Il n'y avait pas d'avion.
Il n'y avait pas d'avion.
Et c'est déjà la fin de cet épisode de cours d'honneur.
On le sait, on va beaucoup vous manquer, mais...
En attendant, vous pouvez réécouter tous nos épisodes sur notre plateforme et nous suivre sur les réseaux.
Merci à toute l'équipe.
Merci Victoire.
Avec plaisir, merci à vous.
Merci Louane.
Merci Mère Noël et Père Noël.
Merci Jeanne pour sa première.
Merci beaucoup.
Merci Mélie.
Ben merci à vous.
Merci Zina pour sa première aussi.
Oui, merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup Lilou d'avoir été là.
Et merci.
Et
bravo.
Bravo Abel.
Et bravo Lodine.
Et bravo Maëlys.
Et bravo à notre recruteur en chef / conducteur de train / régisseur. On remercie aussi Radio Campus pour le service culturel pour leur soutien.
Et rendez-vous dans deux semaines sous le soleil breton.
D'ici là, prenez soin de vous.
Bisous, bisous.
Et Kenavo.
'On veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter. T'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ah, ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Où,
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille. On frissonne.